Olivier Bénis, bonjour Olivier.
Bonjour à toutes et à tous. Il est devenu l'un des symboles de la lutte pour la liberté de la presse dans son pays, l'Algérie. Le journaliste Khaled Drareni a été libéré hier, presque un an après son incarcération suite aux manifestations du Irak. Il sera notre invité dans ce journal dans quelques instants. Des restrictions renforcées dans les Alpes-Maritimes, c'est ce qu'envisage Olivier Véran ce samedi. Il évoque une possible accentuation du couvre-feu, voire un confinement partiel ou total avant la fin du week-end dans ce département où le nombre de cas de Covid-19 explose ces derniers jours. Pendant ce temps, la campagne de vaccination se poursuit, mais elle pourrait être plus efficace selon le collectif citoyen chargé de formuler des recommandations sur la question. Parmi ces conseils, certains estiment qu'on parle trop des potentiels effets secondaires et pas suffisamment des avantages. Juste après ce journal, Jacques Monin, vous nous parlerez justement des dessous de la campagne de vaccination européenne.
Les vaccins qui sont livrés en ce moment sont achetés par l'Union européenne, mais comment Bruxelles, comment la Commission a-t-elle négocié avec les laboratoires pharmaceutiques? C'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui.
Et ce sera dans Secret d'info donc à 13h20. Enfin, nous évoquerons aussi dans ce journal le PDG d'Airbus qui lance un appel à lever les restrictions sur les vols. L'Open d'Australie remporté tout à l'heure par Naomi Osaka et le départ en retraite de Dan Carter, une légende du rugby néo-zélandais.
France Inter.
Ce sont donc des libérations très symboliques en Algérie. Plus de 30 détenus d'opinion ont retrouvé leur liberté hier, à quelques jours du deuxième anniversaire du Irak, le soulèvement populaire qui a poussé vers la sortie l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, remplacé depuis par Abdelmadjid Tebboune. Parmi ces détenus, le journaliste et militant Khaled Drareni, correspondant notamment de TV5 Monde et RSF, devenu l'un des symboles du combat pour la liberté de la presse dans le pays. Il avait été condamné à 2 ans de prison pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national, en réalité pour avoir couvert les manifestations du Irak. Quelques heures après sa libération, il a accepté de répondre aux questions de France Inter. Bonjour Khaled Drareni.
Bonjour.
Vous faites partie de cette trentaine de personnes qui ont été libérées hier, donc des détenus d'opinion. Déjà, quel est votre premier sentiment après avoir retrouvé la liberté?
Je suis très heureux de retrouver ma liberté, même si je suis resté libre, même si j'étais au fond d'une cellule à la prison de Coléa. Mais je considère, et je l'ai déjà dit, que c'est le prix à payer lorsqu'on veut exercer un journalisme libre, indépendant et professionnel en Algérie.
Comment vous avez vécu cette année d'emprisonnement ?
Vous savez, comme je l'ai dit, quand on est journaliste et quand on exerce notre travail de manière libre et indépendante, on est prêt à subir ce genre de choses. Je ne m'attendais pas à être emprisonné aussi longtemps, presque un an. C'était une surprise pour moi, mais j'ai accepté cette épreuve avec sérénité parce que je suis obligé de le faire vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de tous ceux qui me soutiennent. C'était le prix à payer. Je l'ai fait et comme je l'ai dit hier, je continuerai ce combat pour une presse libre en Algérie. Je continuerai le combat pour que la liberté de la presse soit reconnue comme une liberté sacrée et intouchable.
Ça n'a pas du tout remis en cause donc vos convictions. Vous allez poursuivre votre métier de journaliste dans ce pays malgré les difficultés.
Absolument, je poursuivrai mon travail de journaliste, d'abord parce que c'est tout ce que je sais faire, parce que c'est mon métier, parce que nous exerçons un métier formidable. Il est vrai que c'est plus difficile d'être journaliste en Algérie que dans certains pays européens, mais si c'est le prix à payer, alors ainsi soit-il.
Vous avez reçu aussi du soutien international. Qu'est-ce que ça vous a évoqué d'avoir justement ce soutien à l'extérieur ?
Ce soutien des Algériens et ce soutien qui vient de l'étranger n'a pas de prix, il est inestimable. D'abord, il prouve que nous sommes innocents, il nous aide à résister. Je l'ai souvent dit aux avocats, ce soutien nous aide à résister parce qu'il prouve la véracité, l'honnêteté et la justice de notre combat pour une liberté de la presse et pour une presse libre et indépendante. J'éprouve une gratitude sans limite à tous ceux qui m'ont soutenu, que ce soit en Algérie, en France et dans le monde, aux médias qui m'ont soutenu sans réserve, aux organisations attachées à la défense des droits de l'homme comme RSF, Amnesty International et tant d'autres, à toutes ces villes en France et dans le monde qui ont affiché mes portraits et m'ont soutenu. Ma gratitude, vraiment, n'a pas de limite pour eux.
On parlait justement du fait qu'il y ait beaucoup de détenus d'opinion en Algérie. Vous les estimez à combien à peu près aujourd'hui dans le pays ?
Ah ben moi je ne sais pas, je pense qu'ils étaient environ 90 et je n'ai pas le chiffre exact des détenus qui ont été libérés, mais comme j'ai dit hier, s'il en reste un, eh bien nous sommes tous en détention.
Symboliquement, ça représente quoi ce geste du pouvoir, puisque c'est une grâce présidentielle, de libérer certains détenus ?
Moi, je ne suis pas concerné par cette grâce parce que je n'ai pas eu une condamnation définitive. J'ai dû introduire une demande de liberté provisoire, mais je considère que ces détenus n'ont jamais dû être emprisonnés. On n'emprisonne pas des gens pour avoir manifesté, on n'emprisonne pas des gens pour avoir travaillé, d'avoir exercé le métier de journaliste, on n'emprisonne pas des gens pour avoir fait des publications sur les réseaux sociaux. Les détenus d'opinion n'auraient jamais dû être emprisonnés et je suis très heureux qu'ils aient été libérés hier.
C'est une libération qui arrive à quelques jours du deuxième anniversaire du début du Irak en Algérie. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée, vous ?
Moi, j'attends juste qu'on respecte le droit des Algériens à la vie, à la liberté, à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, à la liberté de la presse, que les promesses soient tenues, qu'on respecte le droit des Algériens à vivre dans un pays qu'ils aiment, qu'ils veulent prospère, qu'ils veulent libre, parce que c'est aussi notre pays et nous avons le droit de nous battre pour notre pays.
Merci beaucoup à vous aussi, Khaled Drarini, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci, au revoir.
Entretien réalisé donc et enregistré ce matin sur France Inter. 8 à 10 jours, c'est le temps que se laisse l'Élysée pour décider si l'on va alléger les restrictions liées à la Covid ou au contraire les resserrer, quitte à proposer un éventuel reconfinement. Une échéance évoquée hier avec des parlementaires de la majorité pour leur rappeler aussi que l'exécutif compte toujours beaucoup sur la fameuse discipline collective française. C'est ce qu'a dit Jean Castex hier à Bordeaux, c'est ce qu'a redit Olivier Véran ce matin à Nice. Le ministre de la Santé annonce même des restrictions renforcée dès la fin de ce week-end dans les Alpes-Maritimes. Olivier Véran.
J'ai peur qu'il nous faille prendre des mesures supplémentaires en plus du couvre-feu, en plus des restrictions qui existent déjà à Nice comme dans toute la France. Ici, dans les Alpes-Maritimes, à l'échelle du département, je demande au préfet de département de continuer la concertation que j'ai initiée ce matin avec l'ensemble des élus du territoire pour que d'ici à la fin du week-end, nous puissions prendre des mesures complémentaires de protection de cette population des Alpes-Maritimes face à cette flambée épidémique. Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total, dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département, je le redis, dans les 48 heures qui viennent.
Olivier Véran, micro d'Adèle Bossard de France Bleu Azur. La vaccination, de son côté, suscite encore beaucoup de questions chez les Français. Des questions que doit dissiper en partie le collectif citoyen sur le vaccin installé le 16 janvier dernier. 35 citoyens tirés au sort, chargés de faire remonter le ressenti du terrain et de formuler des recommandations au gouvernement, qu'il applique ou non. Les premières seront formulées mardi. Elles porteront notamment sur l'accès aux lieux de vaccination et la logistique, mais aussi sur la manière de communiquer autour de la campagne de vaccination que Philippe, chauffeur de car et membre de la Convention citoyenne, trouve encore bien trop sombre.
Quand je suis allé me faire vacciner, j'ai vécu une ambiance relativement négative de la vaccination. C'est-à-dire que ce soit au niveau des médecins, que ce soit au niveau des infirmiers, on m'a plutôt axé sur le fait de tout ce que je pouvais avoir comme maladie, tout ce que je pouvais avoir comme effet secondaire, mais à aucun moment on a axé ça en disant « grâce à ça, vous ne pourrez plus avoir » et lister les choses à l'inverse, si vous voulez. Donc je pense que déjà une communication positive vis-à-vis du vaccin serait un plus énorme. Moi, je suis encore surpris que certains médicaux sont contre le vaccin. Je me suis fait opérer de l'œil la semaine dernière et je suis tombé sur des infirmières qui me disaient qu'ils étaient contre le vaccin. Donc, je peux vous dire que ça, c'est choquant. Donc, j'aimerais bien déjà faire remonter le fait que, voilà, il faudrait déjà que quand on va se faire vacciner ou quand on va dans les hôpitaux, eh bien que, je sais pas, c'est des règles de base, les gens soient positifs, quoi.
Propos recueillis par Sandy Dauphin. Vaccination toujours, mais à l'échelle du monde cette fois. Un cap symbolique vient d'être franchi. 200 millions de doses ont été administrées partout sur la planète, quelques semaines après le lancement des campagnes dans différents pays. Toutefois, tout le monde n'est pour l'instant pas à égalité. 45% de ces vaccins ont été réalisés dans les pays du G7, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni. Notez aussi que lors d'une première réunion à distance avec Joe Biden, les dirigeants du G7 se sont justement engagés à renforcer l'aide à la vaccination des pays pauvres, vitale pour tout le monde en temps de pandémie. Parmi les pays qui vaccine le plus, il y a aussi Israël. 47% des habitants de l'État hébreu ont reçu au moins une dose sur les deux nécessaires. Israël qui vaccine aussi les Palestiniens de Cisjordanie. 100 000 d'entre eux qui travaillent en Israël vont bénéficier d'un vaccin suite à un accord entre les ministres de la Santé israéliens et palestiniens. Frédéric Mettezo.
Ces dizaines de milliers de Palestiniens travaillent sur les chantiers, dans les cuisines des restaurants, les stations-service ou bien encore dans les hôpitaux israéliens et ils sont indispensables à la bonne marche de l'économie du pays. Les autorités d'Israël ne confirment pas cette nouvelle campagne de vaccination mais elles reconnaissent qu'une réunion sur ce thème a bien eu lieu à Ramallah et que la pandémie en Cisjordanie peut avoir un impact sur la morbidité des Israéliens. La plupart des scientifiques et des soignants israéliens pensent la même chose. L'avenir sanitaire d'Israël dépend aussi de la Palestine et vice-versa. Depuis le troisième confinement lancé le 27 décembre, au moins 30 000 travailleurs palestiniens étaient interdits de rentrer chez eux, obligés de dormir en Israël, mais des centaines faisaient le trajet illégalement. À partir de demain, jour du déconfinement en Israël, ils pourront circuler librement et sans doute bientôt vaccinés. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Alexei Navalny reste en prison. Un tribunal de Moscou a rejeté ce matin l'appel de l'opposant russe contre sa peine de 3 ans et demi de prison ferme prononcée le 2 février. Peine qui a toutefois été réduite de 6 semaines, soit environ 3% de sa peine totale. En Birmanie, la situation se tend à nouveau au lendemain de la mort d'une jeune épicière de 20 ans, première victime de la répression militaire suite au coup d'État dans le pays. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus dans les rues à Rangoon, la capitale économique, mais aussi à Mandalay, où la police a tiré sur le cortège à balles réelles. 6 personnes au moins ont été blessées. Les manifestants réclament toujours le retour du gouvernement civil, la libération des détenus et l'abolition de la constitution qui donne le pouvoir aux militaires. On en sait plus sur la mort d'un responsable du centre d'accueil pour demandeurs d'asile hier à Pau. Ce matin, la procureure de la République, Cécile Jensac, a donné plus de détails sur le déroulé des faits. Elle écarte notamment la piste terroriste et a évoqué la personnalité du suspect, un Soudanais de 38 ans.
À ce stade, le gardé à vue a reconnu être l'auteur des faits. Il expose avoir souhaité obtenir de la structure et donc de la victime un papier à l'attention de l'OFPRA afin de permettre son maintien sur le territoire national et de sortir de sa situation matérielle précaire. Il évoque la crainte d'avoir dû retourner au Soudan en raison des guerres locales qui ont valu son déplacement vers l'Europe. Il nourrit des reproches à l'encontre de la structure suite à la déshérence qu'il connaît depuis sa sortie de prison, considérant que sa situation n'a pas été correctement traitée. Sa garde à vue vient de faire l'objet d'une prolongation au terme des premières 24 heures. Il sera présenté demain à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen, d'un placement en détention provisoire et de la poursuite des investigations sur commission rogatoire.
Cécile Jensac au micro de Damien Gozioso de France Bleu Béarn. Entre 110 et 150 appels par jour pour la nouvelle plateforme anti-discrimination lancée le 12 février par le gouvernement sous le contrôle du défenseur des droits. Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, s'est réjouie de ces premiers chiffres encourageants. Cela prouve la nécessité de ce service et le fait que des gens se sentaient bien seuls avec leur discrimination et les violences qu'ils pouvaient subir. Explique-t-elle ce matin à nos collègues de France Info. Comme pour beaucoup de gens, 2020 a été une année noire pour Airbus. Le constructeur aéronautique européen a limité les dégâts liés à la Covid, mais il a tout de même subi une perte nette de 1,1 milliard d'euros l'an passé. Il faut donc rebondir, selon son PDG Guillaume Faury, mais pour lui, c'est impossible tant qu'on maintient les avions cloués au sol. Il était l'invité d'On n'arrête pas l'écho ce matin sur France Inter et demande un assouplissement des restrictions aux frontières qui paralysent actuellement le trafic aérien. Guillaume Faury.
Nous, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est que le trafic aérien reparte. C'est ça le facteur d'ordre 1 devant tout le reste. Et pour l'instant, en particulier en Europe, on est extrêmement déçus de la situation. On est extrêmement frustrés des barrières qui sont mises au déplacement des personnes. Et c'est quasiment impossible aujourd'hui de voyager en Europe en avion. Même à l'interne d'un pays, c'est compliqué. Donc la priorité numéro 1 pour nous, pour les États, c'est pas juste l'État français, c'est les États en général, c'est de réouvrir les frontières, de permettre de voyager sur la base du test et demain de la vaccination. C'est ça la priorité numéro 1.
Vous appelez à ce qu'on abaisse ces barrières à la circulation des passagers?
Alors, je sais pas si c'est abaisser qui est le bon terme, mais c'est qu'on redonne de la visibilité, c'est qu'on redonne de la possibilité pour le voyage. Il y a eu plusieurs études qui montrent que la contribution du trafic aérien à la propagation du virus est extrêmement faible par rapport à des pays qui ont des situations à peu près comparables sur la circulation du virus. Donc en fait, c'est très psychologique, cette fermeture des frontières. Oui, on appelle à ce qu'on la réouvre de façon raisonnable, mais avec des perspectives, et que les compagnies aériennes puissent aussi organiser, planifier, parce que c'est ça qui est important pour les entreprises et l'économie.
Le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, au micro de Fabien Cazot. Cazaux. Les Parisiens, bientôt encore plus connectés. La 5G va être déployée dans la capitale dans les prochaines semaines, suite à un accord obtenu après un bras de fer entre les opérateurs et la mairie. La ville rejoint donc Lyon, Bordeaux et Strasbourg, qui bénéficient déjà du réseau mobile de nouvelle génération. En échange, les opérateurs ont accepté de rédiger une charte de téléphonie mobile qui sera soumise au Conseil de Paris en mars prochain. Une victoire de plus pour Naomi Osaka, la tenniswoman japonaise, troisième joueuse mondiale, a remporté l'Open d'Australie ce matin sans grande difficulté face à l'américaine Jennifer Brady, 6-4, 6-3. Un quatrième trophée du Grand Chelem donc pour elle, une nouvelle étape dans une irrésistible ascension que vous nous racontez Fabrice Abgral.
Ça ne s'invente pas, Naomi Osaka porte le nom de sa ville de naissance où elle a vu le jour il y a 23 ans, née d'une mère japonaise et d'un père haïtien. Un métissage très mal accepté à l'époque au Japon. Naomi Osaka a 3 ans quand ses parents, sous pression, décide de quitter l'archipel pour se rendre aux États-Unis. Mais aujourd'hui, au Japon, 20 ans après, Osaka est une idole courtisée par les plus grands sponsors qui voient en elle l'icône d'un sport en mal de figure emblématique. En dehors du court, Naomi Osaka affirme de plus en plus sa personnalité. Pourtant, la japonaise a longtemps été timide, réservée et introvertie, cachant ses émotions et ses sentiments. Mais la pandémie lui a permis de s'ouvrir au monde réel, pour reprendre sa propre expression. Elle n'hésite pas à prendre position, notamment contre le racisme. Elle s'investit dans le mouvement Black Lives Matter et participe même à des manifestations. L'an passé, à l'US Open, elle pénètre sur le court avec des masques anti-Covid sur lesquels sont imprimés le nom des personnes victimes de violences policières. Naomi Osaka ne se tait plus. En tant que femme noire, dit-elle, il y a des choses beaucoup plus importantes que de me regarder jouer au tennis.
C'est une retraite après une carrière bien remplie. 2 mondiaux, 3 titres de meilleur joueur du monde, 112 sélections avec les All Blacks. L'ouvreur Dan Carter raccroche le ballon ovale à 38 ans, dont 32 de rugby. Une véritable légende dans son domaine. Une légende que nous raconte Laetitia Bernard.
Il a joué en France, à Perpignan ou au Racing 92, mais c'est véritablement sous le célèbre maillot des All Blacks qu'il s'est fait un nom auprès du grand public. En 112 sélections, il a inscrit 1598 points, c'est un record. Science du jeu, pied gauche ultra précis, il devient champion du monde, même blessé en 2011. En 2015, en pleine possession de ses moyens, il sera l'un des principaux artisans du doublé néo-zélandais. Cette année-là, il est aussi sacré meilleur joueur du monde pour la 3e fois de sa carrière. Profite de ta retraite, tu l'as bien mérité, commentent aujourd'hui ses anciens coéquipiers ou adversaires sur les réseaux sociaux. Félicitations mon pote, c'était un honneur de jouer contre toi aussi souvent, moins de perdre aussi souvent, plaisante un joueur australien par exemple. Dan Carter lui remercie sobrement tous ceux qui ont joué un rôle dans son parcours et surtout les supporters.
Et si le public pouvait revenir dans les stades et les enceintes sportives en général, la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, n'exclut pas un retour partiel à la normale. Une expérimentation va être évoquée mardi lors d'une réunion interministérielle à Matignon. L'Olympique Lyonnais pour le football, l'ASVEL pour le basket et le LOU pour le rugby pourraient accueillir des matchs tests prochainement, même si rien n'est acté selon la ministre. On passe à notre prescription musicale du samedi avec une pépite aujourd'hui, Mansfield Tia, un duo originaire de Nantes. Leur nouvel album sort aujourd'hui, il s'appelle Monument Ordinaire. On y chante en français donc Les errances des sentiments, Mathieu Culeron.
Ne vois-tu pas le soleil tendre?
Avis de tempête dans les sentiments amoureux, le duo Mansfield Tia revient avec un nouvel album tourmenté, toujours composé de Carla Pallone et de Rebecca Warrior. Ce nouveau disque qui tourne toujours autour des personnalités des deux musiciennes avec un léger changement de direction musicale, Rebecca Warrior.
Notre duo c'est vraiment toujours violon-voix, donc ça c'est la base. Et après ça a toujours évolué autour et là on a vraiment resserré vers, je pense, la new wave, la poésie, la new wave. Donc il y a des synthés, j'ai abandonné la guitare, il n'y a pas de batterie, du Prophète 6, violon-voix quoi.
Je vis d'amour.
Amour contrarié, noces païennes, voyage initiatique, Monument Ordinaire est un exutoire, une soupape poétique pour le duo.
Tout Mansfield est dû à un traumatisme.
Ah bon, mais lequel?
On va tous. Bah, c'est la vie qui nous nourrit, ouais. C'est les aléas de la vie, donc ils ne sont pas toujours très tendres. C'est une manière aussi de continuer à faire de la poésie avec les choses qui te blessent.
De Sexy Sushi à Compromat, les projets de Rebecca Warrior sont de plus en plus poreux, mais Mansfield Tia demeure indiscutablement le plus délicat et poétique.
Mon amour, mon ami, si je me souviens, quand tu es parti, j'étais en plein déclin, je voyais planer les vautours. Histoire est un machin.
Un peu de douceur pour finir ce journal. Et de la douceur, justement, il y en a visiblement plus beaucoup dans le couple entre Kim Kardashian et Kanye West. La star de la télé-réalité et le rappeur ont annoncé leur futur divorce. Cela fait des semaines que les fans et les milieux autorisés évoquent justement une séparation. On passe à la météo.